Donc, dans quelques instants, on va retrouver à Miami, Philippe Bonneville, sur les lieux de l'événement en fin de semaine. Ray Lalonde, avec une chronique un peu spéciale dédiée, bien sûr, à tous les enjeux économiques et les chiffres qui entourent le Super Bowl. Et à l'instant même, on retrouve Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Souhaites-tu commencer par le Super Bowl? Tu
veux oui, ben sur... oui, oui, peut-être. Je viens d'écouter la très intéressante conversation entre Bruno et
Alexandre.
Lagardière. Alexandre, voilà. Fait, des bons arguments, puis c'est drôle parce que tu écoutes, puis là, tu écoutes ce que le premier dit, puis dire, ben, les Chiefs vont gagner. Mm-hmm. Là, oups, tu continues. Ah ben non, c'est les 49ers qui vont gagner. Ils avaient des bons arguments des deux côtés. Écoute, moi, je favorise un petit peu les Chiefs. Mais d'abord, mon premier commentaire à propos de ce Super Bowl-là, c'est le changement de génération au poste de quart arrière. Et ça, je pense que, à quelque part, ça fait du bien. On se retrouve avec deux jeunes quarts qui en seront à leur début sur cette plus grande scène qu'on puisse imaginer probablement dans le sport professionnel nord-américain. Et ça, je trouve que ça fait du bien. Pendant des années, la scène a été dominée par Tom Brady, Ben Roethlisberger, les deux frères Manning, Drew Brees. Et puis, ça a été le fun de surveiller leurs exploits au fil du temps. Mais là, de voir arriver ces deux jeunes-là, encore très jeunes dans le cas de Patrick Mahomes, je trouve que ça fait du bien. Je trouve que c'est rafraîchissant. Puis, ça va être super le fun de voir comment ils vont se comporter là, dans cet instant décisif.
Certainement, et Mahomes est devenu, je pense qu'il devient un peu le... Je sais pas si ce serait trop gros de dire qu'il devient le visage de la NFL,
ouais. Mais
c'est toujours un quart arrière qui devient un peu le visage de la Ligue, puis c'est lui qui est en... Je sais pas s'il est devenu, mais en phase de le devenir, et peut-être qu'il lui manque juste une victoire dimanche pour que ça se concrétise.
Tout à fait, Mario. S'il gagne le Super Bowl, il va devenir clairement ce visage-là. S'il perd, par contre, c'est une autre histoire. On le sait, la défaite, ça reste. La défaite dans les matchs importants, ça reste parfois collé longtemps, et puis là, il va avoir hâte d'avoir une autre chance d'en rapporter un. Et là, à ce moment-là, c'est Garoppolo qui va vraiment passer pour un héros. Mais moi, j'ai vu jouer les matchs éliminatoires de Patrick Mahomes. J'ai été tellement impressionné par son cran, par sa capacité de rebond. Nos deux collègues qui parlaient un petit peu avant moi l'ont mentionné. Souvent, ils se sont retrouvés dans un déficit important en début de match, là, dans deux des rencontres éliminatoires, les Chiefs. Et malgré tout, la confiance a été au rendez-vous. Puis quand tout à coup, ils ont enclenché la deuxième vitesse, la troisième est venue tout de suite après la quatrième, la cinquième, puis je pense que dans le dernier match contre Tennessee, il y a même eu une sixième vitesse. Quand Patrick Mahomes est allé inscrire sur une course de 27 verges, le toucher à la toute fin de la première demi qui a donné l'avance, l'impact sur le tableau au pointage est important. Pour la première fois du match, les Chiefs avaient l'avance, mais c'était une avance en somme toute relativement mince encore. Mais je pense qu'au point de vue psychologique, ça a complètement coupé les jambes de leurs rivaux. Ils avaient joué un bon match jusque-là dans des circonstances difficiles à Kansas City. Et là arrive cette poussée-là absolument remarquable de Mahomes qui semble plaquer à peu près deux ou trois fois. Ouais. Il semble même tout à coup presque hors limite et réussir à
s'en tirer. Il aurait pu être prudent et sortir, mais là, il a risqué. Et peut-être au risque d'une blessure là, de se rendre jusqu'à la zone des buts. Ouais.
Avec un 360, un spinorama absolument spectaculaire. Alors oui, je pense qu'il peut devenir le visage de la Ligue nationale de football. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il est très, très, très excitant. Il n'est pas seulement bon, mais il est excitant. C'est un corps arrière qui ne reste pas tout le temps dans la pochette.
Il ne ressemble pas à beaucoup de corps arrière qu'on a vu dans le passé, particulièrement de la façon dont il lance son ballon. Toi, tu le sais. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais son père est un joueur de baseball.
Oui, tout à fait.
Et il expliquait à quel point de jouer au baseball, tu sais, comme des fois, il lance pour les plus vieux, les plus jeunes, vous n'allez pas pouvoir vous référer au nom de Ken Tecalvey ou Don Quisenberry, tu sais, un lanceur qui lançait de côté.
Trois quarts,
ça. Et lui, il est capable de faire ça. Il y a souvent des grands, des géants qui lèvent les bras devant lui, il lui faufile le ballon à une autre hauteur. Et il disait que ça, c'est le baseball qui amenait ça. Mm-hmm. Et il disait que le basketball lui avait amené une capacité de pouvoir se débrouiller en espace restreint sans que ce soit un sport de contact. Pour tous ceux qui doutent encore de la pertinence de pratiquer plus d'un sport dans le développement d'un athlète.
Exact. C'est tellement bien dit, Mario. C'est exactement ça. Je pense que ça l'illustre de la meilleure façon parce que tout est une question de coordination aussi. La coordination oculomanuelle, la capacité à réagir rapidement à toutes sortes d'imprévus. C'est ça qui fait la force d'un athlète. Puis tu sais, quand tu regardes le sport collectif, les grands sports qu'on connaît, le soccer, le baseball, le basket, le hockey et le football, bien sûr. Je pense pas qu'il y a un joueur. En fait, je suis convaincu qu'il y a aucun joueur qui est plus important dans tous ces sports-là que le corps arrière au football. Le corps arrière est plus important que le gardien de but au hockey, plus important que le gros attaquant au basket, plus important que le lanceur numéro un ou le releveur numéro un au baseball. C'est lui qui détermine si une équipe peut ou non se rendre très loin. Alors, la pression sur ces deux gars-là est absolument exceptionnelle parce que, tu sais, on le sait, si l'attaque fonctionne pas, ben là, la défensive va devoir passer beaucoup de temps sur le terrain. Même s'ils jouent bien, tout à coup, tes partenaires deviennent épuisés en fin de match, puis l'autre équipe en profite. Alors, ce sont eux qui dictent le tempo du match. Et moi, je trouve que Mahomes, l'an dernier, il a sûrement appris dans le match la défaite crève-cœur des Chiefs en éliminatoire contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça, je pense que ça a été dur. Mais tu sais, Danny le dit souvent.
Faut souvent perdre avant de gagner. Non?
Voilà, faut apprendre. Hein? Faut apprendre à perdre, puis après ça, on apprend à gagner. Puis je pense que les Chiefs sont passés exactement par là l'an dernier en séries éliminatoires. Alors moi, je pense qu'ils arrivent avec un petit avantage. Ils savent, ils ont été très près du but l'an dernier, et je pense que ça pourrait faire la différence dans le match.
Je sais pas si tu as entendu parler, juste une petite anecdote avant de changer de sujet, à moins que tu aies autre chose à ajouter, de l'anecdote du repas qu'a pris Patrick Mahomes avec sa copine prénommée Brittany dans un restaurant de Kansas City les dernières semaines. Je pense que ça se passait dans le déroulement des éliminatoires. Il se retrouve, il entre dans un restaurant de Kansas pour manger une pizza et tout le monde reconnaît Patrick Mahomes à Kansas City, mais semble-t-il qu'il n'y a pas un chat qui est allé le déranger. Il a mangé en paix et tout ça. Puis quand il sort et là, il règle le bill, puis quand il est sorti, il sait bien que tout le monde le regarde. Puis il dit merci tout le monde, sans vouloir dire vous êtes vraiment incroyable de nous avoir laissé manger. Et quand les gens sont arrivés pour régler leur facture, c'était fait. Monsieur Mahomes avait pris soin de tout le restaurant complet.
T'es pas sérieux?
Oui, c'est. En tout cas, c'est une histoire qui a été véhiculée sur les médias.
Quelle belle histoire. Ben écoute, s'il signe effectivement un contrat de 50 millions de dollars,
il peut
payer la pizza à tout le monde.
Exactement. Mais tu sais, il y a moyen de gérer perception. Ouais. C'est fait de façon brillante parce que c'est l'instinct profond qui ressort dans ce temps-là. Je pense, les moyens qui t'accompagnent.
C'est ça. Mais tu vois aussi la différence entre jouer dans un marché plus modeste comme Kansas City, là, où il n'y a pas une guerre de médias puis de tabloïdes puis d'émissions de variété comme à New York ou à Los Angeles, où probablement qu'un grand joueur de football, il sort dans un restaurant puis il risque d'avoir une photo de lui le lendemain dans page 6 du New York Post. Là. C'est une dynamique qui est complètement différente.
Le monde, il se pense dans le caucus, eux autres. Fait qu'on ne dérange pas notre corps arrière. Il faut gagner notre match.
Exactement.
On va parler un petit peu du Canadien. Gros week-end, c'est le cas de le dire. Deux équipes qui ont le vent dans les voiles actuellement, Floride et Columbus, qui ont aligné chacun 6 victoires. Le Canadien qui a gagné hier, puis chaque victoire, évidemment, est tellement importante.
Oui, puis je pense que c'est tellement un gros défi, ces deux matchs-là, que c'est drôle, un petit peu plus tôt dans l'émission de Patrick Lagacé, j'en parlais avec Martin McGuire, puis tu sais, on se disait que Claude Julien n'a probablement pas le choix, il va falloir qu'il utilise Carey Price dans les deux matchs, parce que ce sont deux matchs qui sont comme, tu sais, t'as pas le choix, c'est le temps des expériences est terminé, là, et on le voit d'ailleurs avec le commentaire de Claude Julien après le match d'hier, quand il dit on veut se garder dans une position pour tout donner, pour essayer de mériter une place en séries éliminatoires, c'est sûr que c'est une montagne très, très abrupte à grimper. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense pas que c'est possible pour le Canadien. Mais bon, l'équipe a décidé d'y aller avec un dernier barreau d'honneur. Puis c'est bien correct aussi. Et puis, on sait jamais. Les matchs, deux matchs en deux jours. Une belle victoire hier à Buffalo après avoir connu un très, très lent début de match. Alors, ça peut donner un petit peu de confiance. Ça peut faire oublier la performance un peu décevante là, contre les Capitals de Washington privé de Ovechkin lundi dernier. Mm-hmm. Alors, tu sais, c'est tellement important. C'est la confiance qui fait foi de tout. Le retour de Gallagher aide beaucoup. Ça, c'est très sûr. Mais d'un autre côté, les Sabres que le Canadien a affronté hier, c'est une équipe pour qui ça va mal, qu'ils avaient subi deux jours auparavant un revers crève-cœur contre les Sénateurs d'Ottawa devant leurs partisans. Tu sais, donc, ils avaient peut-être un petit peu le moral dans les talons, puis on les sent encore fragiles. Tu sais, ils ont pris les 20-0, ils n'ont pas été capables d'augmenter leur avance. Puis quand le Canadien a marqué un but, le but égalisateur, celui de Kovalchuk, on les a sentis devenir un petit peu nerveux. Puis le Canadien en a profité. Je suis pas sûr que ça va être la même chose contre les Panthers de la Floride et les Blue Jackets de Columbus, qui me semblent beaucoup plus solides là, entre les deux oreilles en termes collectifs. Ils ont un petit peu plus confiance en leur leurs moyens. Puis comme tu le dis, ils sont sur la lancée. Alors c'est un gros, gros, gros défi pour le Canadien. Puis ça va changer beaucoup de choses. Hein? Deux victoires, deux revers, si c'est ça. Là, ben, les décisions ne seront pas les mêmes lundi matin.
Non, t'as raison, parce que non, chaque défaite ici, il fallait qu'ils en perdent deux, le Canadien. Ça change vraiment le portrait de façon assez importante. Ouais. Je pense qu'on était prêt à vivre avec le fait de perdre contre Washington, mais là c'est des adversaires directs. Là. T'as pas le choix. Là. Si tu veux être crédible dans ta démarche, c'est...
Ouais, parce que ça va être difficile si c'est deux revers, Mario. Ça va être difficile après de dire, ben là, on continue de s'accrocher, on veut encore, tu sais, on continue de croire en nos chances.
Exact.
Tout à coup, là, il y a un moment où, tu sais, il faut se rendre à l'évidence. Alors, s'il y a deux défaites, ça va être très, très dur.
Si tu me permets, je regardais le dossier de Buffalo, là. C'est huit éliminations, fois en ligne qui sont pas dans les séries éliminatoires. Ouais. Tu sais, quand tu vas dans le fond, que tu y restes, là, puis c'est ce que les fans du Canadien souhaitent ne pas vivre. Avec le Canadien. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important, même si il y a toutes sortes de discussions philosophiques sur ce qui est la bonne chose à faire, de jouer pour gagner. Gagner. Moi, je trouve ça bien important. Avais-tu un commentaire sur la décision Kotkaniemi? Il y en a qui semblent faire un grand cas de ça. Moi, je pense que c'est... Je ne sais pas pourquoi il l'a pas pris avant.
Je pense qu'il faut qu'il se décide, par exemple. S'il n'est pas pour jouer là, à Montréal...
À Laval.
On va y aller à Laval. Puis
on parle de ça fait longtemps.
Mais là, il faudrait le faire. On l'a fait avec Fleury aujourd'hui.
Oui.
Donc, il devrait passer un peu de temps à Laval, peut-être jusqu'à la fin de la saison, Fleury, sauf évidemment s'il y a des blessures à Montréal. Mais je pense qu'avec Kotkaniemi, il va falloir s'asseoir avec lui puis lui expliquer, parce que, tu sais, cette idée-là de regarder les matchs d'en haut, là, ça c'est limite aussi. Là.
Mais c'est pas fin du monde un match, là, mais tu sais, dépendamment. Mais là, je le vois pas. Je vois pas quelle place on va y faire. Fait que d'après moi, c'est écrit dans le ciel. Puis quand Drouin va revenir, je pense que Poehling, donc on s'aligne pour être capable de bâtir un potentiel de mini-succès, mais dans la Ligue américaine, puis de là, peut-être
pas.
Que... Ben oui,
pourquoi pas?
Ben moi j'encourage ça. Je voulais nous garder peut-être une minute et demie à peu près, un peu de tennis en terminant. Philippe, est-ce que tu te régales avec les internationaux d'Australie?
Oui. La seule chose qui est plate, bien sûr, c'est que les deux finales ont lieu à 3h30 du matin.
Ouais.
dans la nuit prochaine et la nuit subséquente. Ça, c'est toujours un peu dommage, mais bon, c'est la même chose à chaque année. Mais tu sais, je veux surtout te parler de la jeune Américaine Sofia Kenin, 21 ans, qui se retrouve en finale. Beaucoup de gens la connaissent pas. Ses parents sont des Russes. Ils ont obtenu un visa de sortie à la fin des années 80, quand c'était encore le régime communiste. Ils sont venus vivre aux États-Unis. Mais en 98, quand cette jeune femme-là est née, c'était à Moscou, parce que la famille est retournée pour l'accouchement à Moscou. Par la suite, ça a été un retour aux États-Unis. Ouais. Et elle se sent résolument américaine, là, et même si elle parle russe avec ses parents. Mais c'est une fille qui a un cran absolument extraordinaire. Puis, tu sais, j'ai été vraiment saisi par un article que je lisais un petit peu plus tôt cette semaine dans le New York Times, où son ancien entraîneur, celui qui l'a dirigée quand elle avait 7, 8 et 9 ans, disait qu'elle avait tellement de cran qu'elle avait peur de rien. Il dit, je pense que, tu sais, encore aujourd'hui, elle est comme ça. Puis elle se retrouverait devant Rafael Nadal, puis au fond d'elle-même, elle penserait qu'elle serait capable de le battre. T'sais, elle est comme ça. Elle est animée par une confiance absolument extraordinaire. Alors, elle, là, je pense pas que la grande scène de la finale, de se retrouver en finale comme ça à Melbourne, que ça va l'énerver. Alors moi, je la favorise face à Garbiñ Muguruza.
Hey, bonne fin de semaine, puis bonne nuit si tu veilles jusque-là. Merci, Philippe. Un autre Philippe, Mario. Après la pause. Philippe Bonneville, en direct de Miami.